Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Que des gens soient choqués que je parle de sexualité, j'entends. En revanche, vulgaire, je suis pas d'accord parce que je fais vraiment attention à tous les mots que j'utilise. Et donc j'en ai eu marre d'entendre ça et j'ai dit bah, et c'est la seule blague, et d'ailleurs je le disais dans mon spectacle, là je l'ai pas dit, mais dans mon spectacle je dis c'est la seule blague de ma vie que j'ai écrite pour provoquer les gens, parce que j'en ai marre d'entendre ça. J'en ai marre d'entendre c'est pas beau dans la bouche d'une fille, et je dis bah moi je trouve que les pénis ils sont très beaux dans ma bouche.
Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Tania Dutel, merci d'être là, bonne écoute.
La première fois que tu viens à Montreux, c'est il y a 4 ans.
Et c'est en 2017.
C'est en 2017, ouais. Donc ça a été diffusé il y a 4 ans,
ouais.
C'est ça. Et tu as un premier passage qui s'appelle « La séance chez l'esthéticienne » où là, tu as les cheveux longs, avec des mèches blondes.
Oui.
Tu arrives très punchline, très vert.
Vous aussi, quand vous êtes amoureux, c'est jamais réciproque. Parce qu'en fait, moi, j'ai 28 ans et ma relation la plus longue a duré 2 mois. Ça me fait beaucoup de peine quand je pense qu'il y a des gastro qui durent plus longtemps que ça. Et en fait, on nous dit tout le temps, tu verras, ça va t'arriver quand tu t'y attendras le moins. Et c'est vrai, parce qu'on n'est jamais épilé à ce moment-là. Ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise et qu'après, elle parle?
C'est marrant parce que la façon que tu as de t'exprimer sur scène, c'est que tu poses souvent des questions intimes et gênantes, en commençant par « vous aussi ».
Ouais.
Et en t'adressant directement au public.
Moi, je commence toujours mes passages par des liners. J'aime bien ça.
Ouais.
Voilà, je fais tout le temps comme ça. J'en mets 3. Je fais tout le temps comme ça. Mais en fait, je crois que c'est aussi venu du fait que, à l'époque, j'entendais quand même beaucoup que les filles étaient moins drôles. Et donc, je sentais, il y a quelques années, que quand je montais sur scène, il fallait que je prouve tout de suite,
d'accord,
que j'étais drôle. Et c'est aussi pour ça que j'avais commencé à écrire des blagues en une ligne. Et quand j'ai vu que j'aimais bien cette mécanique, pour ça que j'ai commencé aussi mes parties en posant des questions. Et je pense que ça me faisait marrer de faire ça. J'ai vu que ça fonctionnait. En fait, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est en 2016 que j'ai commencé à faire ça, que du coup, après, j'ai essayé de trouver des trucs qui pouvaient arriver à pas mal de gens en disant « vous aussi, ouais ». Vous aussi, ça vous arrive de péter en toussant ? J'appelle ça le toupet. Ça marche aussi quand on éternue, mais on part plutôt sur un achoupet. Et des fois, pour camoufler le bruit, tu retousses. Mais tu répètes.
C'est marrant parce que tu sais, quand tu fais des vannes, il y a des plans sur le public, je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder, où tu as les gens vraiment, ils sont comme ça, ils ont la main sur le visage pour s'empêcher de rire, mais en même temps ils peuvent pas s'empêcher de rire, mais tu sais, il y a un truc un peu de gêne. Est-ce que c'est un truc qui t'a toujours fait kiffer, ou c'est un truc qui est venu parce que tu t'es dit, tiens, c'est marrant, quand je fais ça, je suis plus forte sur scène?
Non, j'ai commencé à faire ça assez tard, c'était en 2016, j'avais 27 ans, donc tu vois.
Ouais.
Et parce qu'avant je faisais plutôt de l'humour absurde, j'ai commencé à vouloir raconter des choses de l'intime quand j'ai réussi à me détacher du regard des autres. C'est okay. à ce moment-là que j'ai dit, en fait, il y a plein de trucs que je vis. Je sais qu'il n'y a pas que moi qui les vis, donc je vais les raconter sur scène.
Il y a un peu plus de 3 ans, je pesais 94 kilos. Donc je crois qu'on peut dire que je suis une ancienne grosse. Et si une seule personne dans la salle dit « ancienne », je deviens violente. Merci. En plus, j'ai toujours eu la chance d'être plus grande que tout le monde. Et à l'école, j'adorais quand on jouait aux princesses, mais je faisais Shrek. Un jour, une amie m'a dit que si Jennifer Lopez ne faisait pas de sport, elle serait comme moi. En gros, elle serait grosse, mais pas que du cul.
Eh ben, c'est une copine qui m'a dit ça pour de vrai.
Et ça, c'est vrai, ça, c'est...
Oui, je ne l'ai pas inventé.
C'était un truc de collège ou c'était un truc...
Ah non, c'était... Ça devait être pas longtemps avant.
C'est vrai.
Ah oui, j'étais bien, bien, bien adulte, ouais.
Ah, c'est ouf. Et donc, du coup, est-ce que c'est des phrases qui t'ont marqué où tu t'es dit, tiens, il faut absolument que j'en parle sur scène ?
Oui, et en fait, le problème, c'est que ça a l'air tellement gros que les gens pensent que je les ai inventées, alors que tout ce que je raconte, c'est des trucs que j'ai vécu.
Absolument tout.
Bah ouais.
Et du coup, ce jour-là, je me suis recueillie avec moi-même et je me suis dit, Tania, tu viens de devenir une unité de mesure de grosseur de personne. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle de Richter pour les tremblements de terre et l'échelle de Tania pour les gros. Donc moi, je suis à une Tania puisque je suis l'unité de mesure de base. Et j'ai su qu'à partir de 0,8 Tania, les cours de poney sont inaccessibles.
En fait, je fais ça pour une raison très simple. C'est que j'ai été tellement complexée et tellement gênée de choses que j'ai vécues en pensant avoir été la seule personne au monde à avoir vécu ça. Et en apprenant après que ce n'était pas le cas, que je me suis dit, en fait, en partageant des moments gênants que moi j'ai vécu, peut-être que ça va décomplexer des gens. Et peut-être qu'ils n'auront pas honte de raconter leurs histoires.
Et te décomplexer toi par la même occasion.
Ouais. Et effectivement, cette histoire de pêche et l'esthéticienne, j'ai reçu tellement de messages d'esthéticiennes me disant qu'elles avaient vécu la même chose. Donc je me dis, voilà, je ne suis pas la seule.
Je vais me faire filer le maillot il n'y a pas longtemps et tout se passait très bien jusqu'au moment de l'interfessier. Alors l'interfessier, on allongeait sur le dos et on doit lever nos jambes en l'air pour nous écarter les fesses. Vous voyez une vache morte ? J'ai toussé. Et en fait, quand ça t'arrive, tu as 3 choix de réaction. Le premier, tu dis « j'ai pété ». Le deuxième, tu t'excuses. Moi, j'ai choisi le troisième. J'ai fait comme si rien ne s'était passé. Rien du tout. Alors que ma tête était beaucoup plus loin de mes fesses que la sienne l'était. Et j'ai entendu mon père. Et là où j'ai été sûre qu'elle aussi, elle l'a entendu, c'est que je la voyais. Et elle a fait ça. En plus, elle venait de me mettre du talc.
Donc t'as vraiment pété sur une esthéticienne ?
Oui, mais j'ai pas fait exprès. J'étais en train de m'écarter les fesses pour qu'elle me fasse l'interfessier, dit. Et c'est sorti comme un petit vent. Et gênant au possible. Je sais qu'il y a des histoires, comme je te disais, elles ont l'air tellement grosses que les gens croient que j'invente ça. Mais quel est l'intérêt d'aller dire que j'ai pété au nez de mon esthéticienne si c'est faux ? Il n'y a pas d'intérêt à raconter ça parce qu'en plus, c'est une histoire de pète. Et là, ça fait un peu pipi-caca. Mais là, c'est une histoire... Oui, il y en a, ils vont dire « Ok, c'est pipi-caca ». Mais en vrai, quand tu analyses, c'est pas ça. C'est la gêne que j'ai eue.
Ouais, c'est ça, exactement.
Je te parle de la gêne et de la honte que j'ai vécue.
Ouais, bien
sûr. Parce qu'après, elle allait voir sa collègue et que je n'avais pas encore payé. Et que donc, quand je suis allée payer, sa collègue, elle était déjà au courant. Elle aurait pu attendre que je sois partie.
Bref, on a terminé. Elle est partie à la caisse en attendant que je me rhabille. Je me suis rhabillée, je vais pour la rejoindre. Et elle était avec une de ses potes esthéticiennes en train de se marrer. J'ai dit, la connasse, elle vient de lui dire que je lui ai pété à la gueule. Et je pouvais pas lui laisser un pourboire parce que c'était comme si je lui disais, c'est pour le paix. Il y a pas longtemps, dans la rue, j'ai entendu... Oula. Alors elle est habillée comme une pute. Franchement, si elle se fait violer, faudra pas qu'elle s'étonne. Faudra pas qu'elle s'étonne. C'est censé être la première émotion qui te viendrait après un viol. T'es pas choquée, tu pleures pas. Non, tu te dis, écoute, je marchais dans la rue. Je croise un mec que je connais, ni d'Ève ni d'Adam. Le mec me pénètre. Oh, j'étais étonnée. Merci, Montreux. Merci beaucoup.
Sur ton premier passage, tu fais à la fois de l'humour vachement sur des choses très très intimes. Donc, tu vois, le sillon interfécier, genre de trucs, le fait que tu pètes sur une esthéticienne. Et à la fois, des discours avec des combats un peu plus féministes, entre guillemets. Parce que tu dis que c'est difficile pour une fan de faire du stand-up.
C'est très dur de faire du stand-up quand on est une femme. C'est vraiment très dur, sachez-le. Quand on est une femme et qu'on monte sur scène, on se fait juger sur notre tenue, sur notre façon de parler et sur les sujets qu'on aborde. Et le plus difficile, c'est qu'on est moins drôle que les hommes. Ça a été prouvé scientifiquement par des hommes. Et c'est vrai que quand on pense à la fameuse blague « Tire mon doigt », c'est excellent.
Mais moi, j'ai vécu un truc, je me rappelle, dans un comedy club un soir. Donc, quand on est appelé sur scène, on doit traverser le public. C'est pas genre les loges sont derrière, on traverse le public. Donc, je vais pour traverser. Et là, il y avait deux filles qui étaient sur un banc. Et je les entends dire « Putain, c'est une fille, ça va pas être drôle. » Et là, il faut que je joue.
Ouais, c'est fou.
J'ai tout donné, gars. J'ai tout donné. À la fin, elles sont venues me voir en disant « On pensait que ça allait pas être drôle et t'étais la meilleure de la soirée. » Et j'ai pas pu leur dire que j'avais entendu ce qu'elles avaient dit, tu vois.
Ouais.
Mais donc, c'est ce genre de truc où... Tu sais, des fois, je monte sur scène et je vois qu'il y a des gens, ils voient que c'est une fille et ils se braquent. Ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, mais ça m'arrive encore.
Est-ce qu'on n'aborderait pas 30 secondes le sujet des couilles ? Eh ben, c'est parti. Parce qu'il n'y a pas longtemps, à la sortie de mon spectacle, un mec il m'a dit « Je vais te faire un compliment. T'as vraiment des grosses couilles. » Oh, ben, je vous cache pas que je m'attendais à un autre compliment. Et je comprends pas pourquoi on dit que les couilles sont symboles de virilité. Vous avez déjà entendu le bruit d'un mec qui se prend un coup dedans ? On dirait Sophie la girafe.
Et du coup, tu reviens l'année d'après ?
Non, 2 ans après.
2 ans après ?
Ouais.
Pardon, excuse-moi.
Non.
Tu reviens avec les cheveux plus courts et blancs ?
Oui, blond platine. Écoute, je trouvais que c'était un super choix. Quand je revois des photos, je dis « Mais qu'est-ce qui t'a appris, ma grande ?» Ouais.
Et là, t'arrives, tu montes sur scène, tout le monde applaudit, sourire aux lèvres, tu dis rien, tu laisses le public, entre guillemets, finir d'applaudir pour t'écouter, et tu dis...
Vous saviez qu'il y avait du round-up dans les tampons ? C'est du désherbant. Et visiblement, c'est nécessaire, sinon il n'y en aurait pas. Et moi, je mets pas de tampons, du coup, je mets du round-up de temps en temps.
Et bam, punchline, tu vois, genre...
Ouais, mais c'est ça. Bah, c'est montrer aux gens tout de suite que t'es drôle pour qu'ils te fassent confiance. Et alors attends, parce que je sais que les gens ils prennent tout au mot, on ne met pas du round-up dans les tampons. C'est quand on cultive le coton, il y a du round-up. Et donc forcément, il y en a dedans.
Ouais.
Voilà, parce que sinon je sais, ouais, ça m'est arrivé avec une blague il n'y a pas longtemps, je me dis, mais les gens... Donc l'histoire de
tu
cette
la
blague...
Comment, ouais.
De quoi ?
Tu la trouves comment cette vanne ? Pardon, je te coupe, mais c'était ça que je voulais dire. C'est l'histoire de cette vanne.
L'histoire de cette vanne, c'était je devais faire l'émission 60 de Kian. Ouais. Je voulais faire des liners. Et donc, je réfléchis. Et je ne sais pas pourquoi. Ça a été une des seules blagues en une ligne que j'ai écrite et qui a marché tout de suite, que je n'ai jamais eu à retoucher même un seul mot. Parce que souvent, tu sais, on écrit des trucs et on dit « Ok, ça marche, mais il y a un ordre de mots qui ne fonctionne pas ou ce n'est pas les bons mots. » Et donc, on rebouche des trucs. Et celle-là, je crois que ça a été une des seules que j'ai écrites et qui a tout de suite marché. Je n'ai rien eu à modifier. Mais voilà, je sais juste que c'était pour l'émission de 60 Kian. Mais je ne sais plus comment j'ai eu l'idée.
Vous aussi, quand on vous demande votre poids, vous enlevez toujours 10 kilos. Je le fais tout le temps parce que j'ai honte. Sauf au ski, j'en enlève que 5 parce que je me dis si ma vie dépend du réglage des skis. Vous avez remarqué que quand on se fait insulter, il y a toujours le mot gros avec genre grosse pute, grosse salope, gros connard. Gros, ça va avec tout, c'est vraiment l'équivalent de la petite robe noire. J'aime pas l'été, j'aime pas quand il fait chaud. En fait, je suis toujours très mal à l'aise quand je dois me lever de ma chaise et qu'il y a la trace de ma raie dessus. Moi, je me lève pas d'une chaise, j'en risque à rien passer. Hein. Moi, quand je me lève d'une chaise, je dois faire ça. J'efface la trace.
Comment tu sais qu'il faut remodeler une vanne si elle marche pas ?
Par rapport aux réactions du public.
Ah, donc c'est Comedy Club, tu testes ?
Ouais.
Tu testes
ouais.
Beaucoup ?
Ouais.
Ouais. Tu peux pas te dire en écrivant quelque chose dans ta chambre, bon, j'en sais rien, sur une terrasse de café, Ça va être drôle, ça va marcher.
Je crois que ça va l'être. Et après, il faut que je vérifie.
D'accord, ok.
Des fois, j'ai raison, des fois, je me plante.
Mais c'est bien.
C'est essentiel de passer par les comédie clubs. On est obligé pour vérifier que ça marche. Et c'est pas on va essayer cette blague une fois, c'est on va la jouer 80 fois grand minimum en comédie club.
Ce que les gens savent pas d'ailleurs, quand t'arrives à Montreux, ta vanne, en fait, tu l'as déjà exploitée.
Oh, mais ils croient qu'on a écrit le texte le matin même. Hein.
Et en fait, tu la couches quelque part parce que est-ce que tu la rejoues après?
Ben, en fait, des fois, tu sais, on est appelé pour plusieurs captations la même année. Et c'est compliqué de lâcher trop de passages différents parce qu'après, les gens, quand ils viennent voir ton spectacle, ils ont déjà beaucoup vu sur Internet. Donc, des fois, quand j'ai plusieurs captations, par exemple, tu vois, il y a des trucs de l'émission 60 où on n'a qu'une minute de blague et ben, je pouvais en reprendre une ou deux que je mettais dans un autre passage. Mmh. Des fois, je fais des petites combinaisons. L'esthéticienne, je l'ai sortie plusieurs fois aussi.
D'accord.
Mais je fais des combinaisons. Je mets un truc qui est déjà sorti avec un truc qui n'est pas sorti. Voilà, je change mes passages.
D'accord.
Ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise et qu'après, elle parle? Ça m'est arrivé sur Tinder, je rencontre Ludovic, on se plaît, donc on décide de se rencontrer en vrai. Je le vois arriver de loin, je le trouve très beau. Là, il se rapproche et j'entends « Salut Tania, désolée pour le retard !» Bon, moi, je veux bien faire des efforts dans la vie. Genre, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien dans ta chatte, je peux l'entendre. Mais, oh là là, non. Des fois, j'ai des amis qui me disent qu'ils couchent avec des femmes religieuses et en fait, ils m'ont appris qu'ils passent par là pour qu'elles restent vierges. Je ne le savais pas. Et moi, je ne juge pas les religions. Je comprends qu'elles ont envie d'éviter un rapport parce que c'est péché. Mais Dieu, il le voit que t'es en train de te faire enculer, ma grande.
Et là, du coup, effectivement, tu fais cette vanne sur les femmes religieuses qui se font sodomiser. Qui était une vanne qui était pour toi, d'ailleurs, un peu posée comme ça et qui a été rebalancée sur TikTok et qui a fait des millions de vues, apparemment.
En fait, la première fois que j'ai entendu ça, moi, je viens vraiment de la campagne profonde et j'ai un copain qui me dit qu'il couche avec une meuf religieuse et que bah il l'encule pour qu'elle reste vierge. Et je me dis, c'est un cas isolé. Vlati pas que j'arrive à Paris et que j'ai plein de potes qui me disent qu'ils font ça. Je me dis, mais c'est quand même fou. Et ça veut dire que ces filles se font enculer pour rester vierges. Et mon Dieu, que ça doit faire mal de faire ça tout le temps. Et du coup, j'en parle à des potes, ils me disent « mais c'est hyper drôle ». Et je sais qu'il y en a deux qui me disent « franchement, si tu la fais pas, moi je la prends ». Et du coup, je dis « bon bah apparemment, ça a l'air drôle ». Et donc, j'ai commencé à la faire et c'est vrai que ça marchait très bien. J'ai eu peur que des gens se sentent insultés. Ouais. Effectivement, je crois que c'est arrivé un soir. Je pense que c'est une femme qui devait avoir un anus à peu près gros comme ça. Mais c'est pas de ma faute, en fait.
Bah déjà, tu viens choquer des gens sur leur intimité. Et si en plus, tu viens parler aux personnes qui sont vraiment rigides par rapport à cette intimité, c'est-à-dire des gens qui pratiquent vraiment une religion où il faut être pudique, tu vois. Bah forcément, il faut s'attendre à ce que...
Alors, si tu fais un truc où il faut être pudique, il faut pas aller dans les comédie clubs. Hein, parce que les humoristes sont pas pudiques. Hein.
C'est vrai.
Ah oui, il faut pas faire ça.
Été égale débat sur le burkini. Et alors le burkini, moi je ne suis pas pour, mais je suis pas contre parce que j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, si moi demain j'ai envie de me baigner avec une plume qui tient par la seule force de mon anus, j'ai pas envie qu'on me dise que j'ai pas le droit de le faire. Et alors je me rappelle avoir vu une femme se baigner en burkini il y a 2 ans et mon souvenir c'est que mes yeux n'ont pas pris feu. Enfin, je veux dire, ma vie d'avant, elle me manque pas, quoi. Après, si on doit commencer à donner notre avis sur ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui ont les orteils qui se croisent arrêtent de porter des chaussures ouvertes l'été.
Dans ce deuxième passage que tu fais à Montreux, on sent déjà que tu arrives... en affirmant ce personnage qui vient choquer les gens, mais même dans ton attitude...
Mais c'est pas un personnage, c'est moi. Oui, c'est moi.
D'ailleurs, ça me met toujours un peu... j'ai pas envie de dire mal à l'aise, parce que le mot serait un peu fort.
Je sais que je mets mal à l'aise, les gens.
C'est que t'as la capacité, je trouve, de regarder au fond des yeux des gens, et on a l'impression qu'on ouvre notre âme, tu sais. de rien pouvoir cacher. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils te regardent pas dans les yeux. Moi, je regarde dans les yeux.
Je fais ça aussi.
Mais je sais que moi, mon regard, il veut tout dire. Je le sais.
Mais je trouve que c'est une vraie puissance parce que à l'audio, je pense qu'on le sent pas parce que voilà, je fais un podcast, je passe des passages qui sont à l'audio. Mais je trouve que c'est une vraie puissance que tu as sur scène. Tu as ce charisme juste avec le regard où tu peux arriver sur scène, imposer un silence et en même temps être tout à fait en confiance et attendre le bon moment pour sortir la vanne. Ça, c'est un truc qui est venu avec le temps, avec la confiance. Est-ce que tu me parles de ça?
Ouais, je crois que c'est venu avec le temps. Et c'est hyper étrange parce que c'est un truc qu'on me dit souvent. On me dit, putain, mais tu fais tellement bien les silences. Et du coup, je suis là, bah merci, mais mes blagues, elles sont bien ou pas?
Ok. J'ai une information à vous donner. Mais je ne sais pas si vous êtes prêts. Ok. Je connais une fille qui a sucé Leonardo DiCaprio. Donc, personne n'est impressionné. Parce que moi, quand elle m'a dit ça, je dis « Oh, la chance !» Donc, visiblement, c'est mon rêve. Ça veut dire que moi, si demain, le génie de Aladdin vient me voir pour me demander mes trois vœux, je vais devoir choisir entre que ma famille soit en bonne santé, être propriétaire d'un rooftop à Paris, être heureuse toute ma vie et sucer Leonardo DiCaprio. Il y en a un qui va devoir sauter et c'est pas Léo. Et moi, je sais que son pénis, il doit être normal, mais c'est Leonardo qui est au bout. Et je rêve de lui faire. Et qu'à la fin, il me chuchote à l'oreille, je suis le roi du monde. Alors des fois, il y a des gens qui sont choqués quand je dis ça parce que c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Moi, ça m'énerve d'entendre ça et en plus, je trouve que c'est faux. Moi, je trouve que les pénis, ils sont très beaux dans ma bouche. Ça accessoirise mon visage. Il y en a, c'est les piercings, moi, c'est les bites.
Il y a aussi, je trouve que les pénis, ils sont très beaux dans ma bouche, ça accessoirise mon visage.
Ouais, figure-toi que j'ai revu cette blague dans la cérémonie des Césars l'année d'après.
Yes.
Ouais. À Montréal, j'écrivais pour un gala pour aller jouer à Québec. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, j'étais avec un pote, on était chez lui en train d'écrire. Et je crois que justement, j'avais vu encore des commentaires avec des gens qui disaient que j'étais vulgaire, tout ça. Et j'étais là, mais je fais attention à tous les mots. Parce que autant que des gens soient choqués que je parle de sexualité, j'entends. En revanche, vulgaire, je suis pas d'accord parce que je fais vraiment attention à tous les mots que j'utilise. Vraiment, si tu analyses la façon dont j'en parle, ce n'est pas vulgaire parce que je fais hyper attention. Ouais, j'ai un langage hyper soutenu. Et donc, j'en ai eu marre d'entendre ça et j'ai dit, bah, et c'est la seule blague. Et d'ailleurs, je le disais dans mon spectacle, là, je ne l'ai pas dit, mais dans mon spectacle, je dis, c'est la seule blague de ma vie que j'ai écrite pour provoquer les gens parce que j'en ai marre d'entendre ça. J'en ai marre d'entendre, c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Et je dis, bah, moi, je trouve que les pénis, ils sont très beaux dans ma bouche.
Et c'est juste de les provoquer, les gens.
Sur ça, ouais, parce que vraiment, je te jure, je joue tellement dans des endroits où les gars, ils racontent des trucs pires, hyper trash, et où eux, ils font pas attention au langage qu'ils utilisent, que je me dis, comment tu peux dire ça de moi, quoi. Et vraiment, et là, j'ai fait un passage cette année avec Jesse Varin et Fanny Ruet.
Alors, je remets dans le contexte. Ouais. Au Festival de Montreux, il y avait un gala avec Guillermo Guise et Jérémy Crêteville.
Tout à
fait. Et à un moment donné, ils ont fait monter sur scène Jesse Varin, qui est la... Je ne sais pas exactement le terme.
C'est la directrice de la nouvelle scène,
qui a une salle de théâtre sur une péniche à Paris. Très bien, d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller. Qui a une programmation qui est assez féministe. Enfin, pas féministe, j'ai pas envie de dire ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui sont produites chez elle. Et donc, du coup, elle vient défendre, entre guillemets, la cause des femmes dans le milieu du stand-up, qui apparaît comme... pas une cause, mais qui en fait en est vraiment une encore aujourd'hui. Et du coup, tu montes sur scène avec Douli, je crois.
Non, avec Fanny Ruet.
Avec Fanny Ruet.
Ouais.
Exactement. et tu les démontes entre guillemets parce que eux s'amusent à jouer les personnages miso qui font pas du tout attention à ce que Jessie va rien
qu'est-ce qu'on a ri à faire ça d'ailleurs voilà.
C'est ton moment Tania, c'est vraiment à toi, c'est à toi, c'est à vous les filles, nous de toute façon on doit faire des chorés et donc
ouais. Vas-y Jessie, on t'écoute pour de vrai.
Merci les filles. Faut savoir quelque chose, c'est que l'humour est parfois est créé dans des lieux comme des comédies club, et souvent quand t'es une femme bah faut que tu t'imposes, et puis t'es toujours confrontée à...
Des blagues de cul. Ils font des blagues de cul dans les loges.
Nul.
Vraiment. Nous on fait des blagues de cul les femmes.
Plein.
Avec Fanny on en fait. Oh, elles sont de qualité.
Beats, tout. Tout, il y a de tout, parce bien écrite.
Oui, parce qu'en fait, on vit des choses pour eux, et après, on vous les raconte, mais bien. Les hommes humoristes, vraiment, ils se prennent un doigt dans l'anus une fois dans leur vie, le lendemain, ils en font un sketch de 45 minutes, et c'est leur hit pendant 7 ans.
C'est vrai, putain. Attends, comment elles savent que mon prochain spectacle s'appelle Prostate ?
Ouais, putain.
Et ça me fait rire parce que bon, bref, à un moment, mais je dirai après, à un moment, justement, je dis, parce que c'est vrai, mais les gens qui regardent les vidéos sur YouTube n'ont pas une vraie connaissance du stand-up parce qu'ils ne vont pas forcément dans des comédie clubs tous les jours. Donc moi, la plupart des humoristes, même qui commencent, je les vois. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'un gars, quand il se prend un doigt dans le cul, le lendemain, il écrit 7 heures dessus. Hein. Et c'est vraiment son hit pendant 7 ans, quoi, tu vois. Et nous... Ben, les règles, on n'a pas le droit, alors qu'on les vit quand même une semaine par mois pendant plus de 30 ans. Tous les trucs féminins, non, ça, il faut pas. Les gars, ils se prennent un doigt dans le cul, mais hey, c'est un nouveau monde.
Pas, hein. Tu trouves pas que ça commence un peu à se modifier, ce truc-là, que c'est un petit peu plus...
Je croyais.
Accessible,
et facile. Puis, va regarder les commentaires, Félix, je t'en supplie.
D'accord.
Va regarder les commentaires, tu verras. Tu vois, vraiment, j'ai dit, là, quand j'ai tourné en décembre, j'ai dit, il faut qu'il y ait rien sur la sexualité. Rien. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire toutes les meufs sont obligées de parler de ça. Eh ben regarde, on ne fait pas que ça. Oui, on en parle, mais c'est pas parce qu'on en parle sur un 7 minutes que notre heure
tu
entière ne parle que de ça.
Sur eux, je pense.
Sur ces gens-là ?
Ouais.
Putain.
Parce que je sens que t'es habité par cette cause-là. Oh,
mais parce que je trouve qu'ils critiquent, mais et des fois il y a des critiques constructives, mais souvent dans les critiques, quand t'analyses, t'es là, mais tu n'as même pas écouté mon passage en fait. Enfin, dire, elle est encore en train de raconter comment elle s'est fait casser le cul, alors que je raconte comment j'ai branlé un gars avec mes pieds, mais c'est même pas la même thématique.
Dernièrement, j'ai couché avec un fétichiste des pieds parce que bah, j'ai appris qu'il fallait que j'écrive pour Montreux, et donc moi, je couche utile. Et en fait, quand il m'a annoncé ça, je dis « Oh, la mauvaise nouvelle !» Pas pour lui, hein, pour moi, mes pieds sont dégueulasses. Ils sont pas sales, ils sont moches. Attention, je n'ai pas non plus les orteils qui se croisent. Non, ils sont trop petits. On dirait des saucisses cocktail. L'été, je ne peux pas porter de tongs parce que mon pied ne va pas au bout de la chaussure. Je n'ai pas d'ongles sur le petit orteil, donc quand je fais des pédicures, je dois mettre le vernis sur la peau. Et alors, dernièrement, j'ai appris, ça c'était l'arrivée dans la trentaine, je vais me faire épiler les demi-jambes. Et l'esthéticienne me dit, on fait également les orteils hein? Je savais pas. Effectivement, ça a repoussé depuis, j'ai vérifié, j'ai 3 poils par orteil. Sauf sur le petit, hein, pas d'ongles, pas de poils. Donc il m'annonce ça, donc ok, donc on y va. Il met quand même des bougies, tu vois, pour compenser la nouvelle. Et donc il m'explique qu'il faut que je le branle avec mes pieds. Ok. Donc moi je me prépare, je mets du lubrifiant sur mes pieds. J'étais déjà lubrifiée à l'intérieur, mais c'était pas ça qui l'intéressait. Donc je mets le lubrifiant sur les pieds, j'englobe son pénis. Vous voyez un hot dog. Et ensuite, avec mes jambes, je fais le mouvement, tu vois. Je monte, je descends, je monte, je descends. Au bout de 10 secondes, je me dis, grand Dieu, je n'ai pas d'abdos. Et donc, il me dit, t'inquiète, je gère. Donc, en fait, il met ses mains autour de mes pieds et il fait le mouvement lui-même, sauf que je suis très chatouilleuse des pieds. Donc, je commence à rigoler. Il me dit, Tania, tu me déconcentres. Excuse-moi de te déconcentrer, tu es en train de te branler avec mes pieds. Donc je prends un coussin, je le mets sur mon visage, tu vois, pour essayer de camoufler le bruit. Et j'essaie de penser à autre chose. Et d'un coup, je me dis, oh, Tania, tu as du lubrifiant sur les pieds, imagine, tu oublies. Tu te lèves. Tu glisses. Tu tombes, tu meurs. Pire, imagine, tu embarques une bougie avec toi sur le chemin. Ce que tu as sur les pieds, c'est probablement inflammable. Il y a un incendie qui se déclare. Tous les gens de l'immeuble, ils ont le temps de partir en courant. Et moi, je suis au milieu de la chambre. Est-ce que quelqu'un a des chaussettes? Mais quelle enquête pour la police scientifique. Et ils vont dire quoi, ma famille? C'est la première qui a pris feu. On pense même qu'il s'est déclaré par ses pieds. Et je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup.
Mais du coup, tu as ce storytelling à la fin avec le fétichisme des pieds. Je veux bien que tu m'en parles. Je veux bien savoir d'où ça vient, ce truc de fétichisme.
Eh bien, ça vient de l'été précédent, où je rencontre un gars. Ça se passe bien.
Donc, c'est encore une histoire vraie. C'est-à-dire que toutes les histoires...
Mais
c'est...
pourquoi j'irais inventer ça, Félix?
En fait, même pas inventer, mais t'es romancé. Tu vois ce que je veux dire? Pour embellir une certaine part.
Alors,
de vérité.
Je peux romancer des trucs. Pour le coup, ça, c'est aucunement romancé. Aucunement. C'est-à-dire que même ce que je dis dedans avec le truc de « je me suis mis un coussin sur la tête pour penser à autre chose » et je me suis dit « mais putain, quand je vais me lever, j'ai du lubrifiant sur les pieds, qu'est-ce qui se passe ?» ça, bah, j'ai vraiment pensé à ça. Et quand je me suis levée, j'ai fait le truc et j'ai dit « oh non, mais t'as un tapis !» Et donc, j'ai même pas pu vérifier pour voir si je me pétais la gueule ou quoi que ce soit. Mais c'est, j'ai vraiment pensé à ça. Donc, je l'ai vécu l'été d'avant. Un gars que j'ai vu pendant plusieurs semaines. Et puis, bah, un jour, il me dit qu'il aime bien ça. Je me dis, bah, écoute, pourquoi ouais, pas pourquoi essayer pas, ouais. Moi, tant que c'est pas un truc
au pire,
qui
ça me fera
atteint...
3 minutes sur scène.
Exactement, au pire, ça me fera 3 minutes sur scène. Et non, mais tu sais, si vraiment on me propose un truc où je me dis, bah, j'ai pas du tout envie, ok, mais là, c'est pas... Enfin, branler quelqu'un avec ses pieds, c'est pas non plus un truc complètement incroyable, quoi.
En fait, ce qui est drôle, c'est que t'as du mal à te... Je pense que t'as... De comment tu le décris, t'as la volonté d'être sérieux pour faire en sorte que, de passer un bon moment, mais c'est plus fort que toi, quoi.
Bah, je suis hyper chatouilleuse des pieds. Hein.
Et du coup, t'as la scène. Enfin, on se projette vraiment
ah non,
dans
mais...
la scène, c'est génial. Enfin, je trouve que ce passage est vraiment drôle.
Ah non, mais tu me déconcentres, tout ça. J'ai tout reçu. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça.
Tu le revois plus?
Je suis toujours en contact avec lui, si.
Et il rigole quand il vient voir ce passage sur scène?
Mais je sais même pas s'il l'a vu.
Du coup, c'est sur Internet.
Ouais, mais je sais même pas s'il m'en a déjà parlé, en vrai. Putain, c'est drôle.
On voit lui un texto.
J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé à ça, mais ouais.
Et du coup, t'es revenu cette année avec un troisième passage.
Ouais.
Où là, t'as les cheveux lisses.
Tout à fait.
Bruns, plus courts.
Ouais. Ouais.
Et là, vraiment, j'ai l'impression que ce truc que tu me disais, t'arrives toujours avec des liners. Là, pour le coup, tu maîtrises vraiment ce truc de liner, je trouve, parce que c'est beaucoup plus affirmé. En fait, tout le monde est ambiancé par une musique en mode « Singing in the rain », tu
ouais.
vois, parce que c'est ça, c'est sur la musique
oui.
sur laquelle tu
ouais.
rentres. Et tu arrives avec ton gimmick, et là, tu poses 5 ou 4 questions au public. Bah, 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 bah.
Est-ce que vous aussi, quand vous vous embrouillez avec quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, votre répartie, elle est meilleure après, dans votre tête, quand vous êtes chez vous? Ouais. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vos parents, ils vous achetaient des vêtements plus grands pour qu'ils durent plus longtemps? J'ai passé mon enfance à avoir des vêtements pour l'année prochaine. Vous aussi, vous êtes sûr à 100%, mais à 100% d'avoir le sida quand vous allez récupérer vos résultats? Même pour la glycémie? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un SDF vous demande de l'argent et que vous lui répondiez non merci? Ok. Bonsoir. Merci de m'avoir écouté.
Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu fais toutes ces punchlines-là, que tu maîtrises les liners et t'aimes bien rentrer avec des liners-là, et ensuite tu dis bonsoir. Un truc que tu ne disais pas avant.
Ouais.
Et je trouve qu'on est vachement plus dans la présentation de ton personnage. Ton personnage, encore une fois, et toi sur scène.
Tout à fait.
Mais on est vachement plus dans un truc maîtrisé, tu vois.
Je sais pas, j'ai été vraiment en galère pour ce passage de l'année dernière. Moi, personnellement, j'en suis pas du tout contente.
Ah ouais ?
Ouais, je suis pas du tout contente de ce passage-là. Je me suis mis cette grosse pression de pas du tout vouloir parler de sexualité.
Ok.
Très bêtement. Parce que, par exemple, ma vidéo sur le fétichisme des pieds, quand elle est sortie, j'ai eu beaucoup de gens. Je crois qu'on était pas loin d'une centaine. Qui sont allés sur ma page Facebook et qui ont commenté chacune de mes vidéos pour me dire à quel point c'était de la merde.
Un espèce de groupe qui se met.
Un énorme ouais. groupe de plein de gens qui ont commenté toutes mes vidéos pour dire à quel point c'est de la merde.
Je crois qu'ils sont habités par un combat. Qui est
mais ils ont surtout des week-ends prolongés.
Peut-être.
Mais c'est fou, quoi. Mais donc, j'ai vraiment, vraiment galéré pour trouver ce que j'allais raconter. J'ai dû aller rechercher des trucs loin, les trucs sur la pédophilie, tout ça. J'ai dû aller chercher très loin.
Mais il y a plus de thèmes que sur les autres passages, tu vois.
Dernière question, est-ce que vous aussi, quand vous tapez pédophile sur Google, vous avez peur que la police, elle vienne taper à votre porte? C'est moi, oui. Une fois, j'ai tapé pédophile et je dis, mais Tania, qu'est-ce que t'as fait? Et après, je me suis dit, ça va, t'as pas tapé enfant nu. Mais j'étais en panique. Et alors, pourquoi j'ai tapé pédophile? Parce que j'adore ça. Comprendre la psychologie des gens. Et c'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de documentaires sur les tueurs en série. Et tu vois, c'est passionnant parce qu'on se rend compte que c'est toujours lié à leur enfance. Ils ont été maltraités ou ils ont été violés et du coup, après, ils ont mal viré. Donc, traitez bien vos enfants. Avant de les retrouver dans les médias dans 20 ans. Et je crois qu'il ne faut pas laisser la parole à leur connaissance. Ce n'est pas des bons avocats. Leurs arguments ne vont pas. On ne comprend pas. Ils disaient toujours bonjour. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour qu'il tue toute la paroisse du village? Je crois qu'il faut arrêter que cette légende comme quoi les gens polis sont innocents. Parce que je pense vraiment que Guy Georges y disait bon appétit à ses parents. Et en tout cas, en faisant cette recherche, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Internet, c'est bien foutu. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais une recherche pour un nouveau canapé, après, j'ai des photos de canapé partout. Là, j'ai pas eu une seule photo de pédophile sur mon Facebook. Sinon, moi, je suis quelqu'un de plutôt rigide. Déjà parce que je supporte pas les gens qui disent « je suis quelqu'un qui ». Et les gens qui disent « je suis quinquin », ça passe pas. Et donc, moi, je suis quelqu'un de plutôt rigide. Je supporte pas les gens qui t'invitent chez eux, qui disent « fais comme chez toi, mais c'est à toi de tout faire ».
Il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est que tu dis « je suis quelqu'un de plutôt rigide ».
Ouais.
Je trouve que ça définit de ouf ta personnalité.
Ouais, c'est vrai.
Et ton personnage comique.
C'est vrai.
Parce que même dans ta coupe de cheveux et ton évolution, au final, elle est de plus en plus rigide. Et même dans tes vêtements. Et au final, c'est un personnage que tu as de plus en plus assumé. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu sais, tu me fais. J'ai noté ça sur mes notes, mais ça me fait penser à. Des fois, tu me fais penser à Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada.
Mais non.
Si, un petit peu.
T'as vu, je le prends bien en plus.
t'es un peu ce personnage comique qui tient vachement le regard. Et rentre dans l'intimité des gens, un peu dans ce truc de « Ah, ça vous choque, ça ? On va en parler. » Juste pour le plaisir d'en parler. Et je trouve que c'est une évolution qui est très forte dans les trois passages, quand tu vois ces trois passages-là. Quoi.
Ah, donc toi, t'as préféré mon troisième passage ?
J'ai pas, en fait, c'est pas une question de préférer ou pas préférer, ou de répétition ou de vannes que je vais aimer ou que je vais pas aimer. Il y a des vannes que j'ai adorées dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. Je vais surtout me poser la question de à quel point tu présentes un personnage ou une identité quand tu arrives sur scène et à quel point c'est facile de capter l'attention du public. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus au final dans ce métier, c'est pas tellement la capacité à écrire des vannes chez soi, les tester en comédie club et savoir qu'elles sont drôles. C'est la capacité à être sûr de ton personnage et la façon de vendre tes blagues et tout ce que tu dis fonctionne. Tu vois ce que je veux dire?
Bah après, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas aimé du tout ce passage et je trouve que ça n'a pas fonctionné.
D'accord.
Et pourtant, j'ai eu beaucoup de retours de potes humoristes, alors que normalement, ils font pas ça. Hein. Normalement, ils te disent pas quand ils aiment bien quelque chose. Et donc, visiblement, c'était un bon passage, mais moi, j'ai pas...
Parce que je pense que tu t'intéressais trop à Ovan et pas assez à ce que tu dégageais sur scène, parce que c'est devenu naturel.
Ouais, peut-être, je sais pas.
Tu sais, quand je pense à Tania Dutel, c'est vous aussi. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, tu vois. Et ce truc-là, c'est bon, c'est un personnage. Et quand tu arrives sur ton troisième passage, bah, ça rentre tout de suite.
Qui s'appelle la famille Dutel.
Ouais, mais ça tu fais trois punchlines comme ça, clac, 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 quatre punchlines. Ensuite, bonsoir, on a présenté le personnage. Vous savez que je vais vous parler de choses intimes. Vous savez que vous allez être gêné. Vous savez que je vais faire des silences et que je vais tenir le regard. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est intéressant quand tu dis « je suis quelqu'un de plutôt rigide ». Voilà, je voudrais que tu me parles de ça. Est-ce que ça t'est venu comme ça naturellement ou est-ce que c'était juste pour enchaîner une vanne? Parce que je trouve que ça dit vachement de ton perso.
En fait, il y a une fille que je voyais beaucoup à un moment, une copine, et elle m'invitait à dîner. Moi, quand j'invite des gens à manger chez moi, ils arrivent, c'est tout prêt. Elle, j'arrivais, elle commençait à préparer à manger, et en plus, il fallait que je l'aide. C'était les trucs aussi de... elle te proposait un verre, elle me disait, fais comme chez toi. La vaisselle n'était pas faite. Il fallait que je lave mon propre verre. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je suis hyper rigide. Et du coup, voilà.
Ah, t'as fait une introspection sur toi.
Ouais, en fait... Je suis casse-couille sur les détails où je trouve qu'il y a un respect qui va que dans un sens. Et ça, j'aime pas.
Ouais.
J'ai été élevée quand même pas mal à l'ancienne et du coup, j'aime bien quand... Je sais pas si j'arrive à l'heure, ben j'aimerais bien que tu arrives à l'heure. Ou alors, tu sais, les gens, ils te donnent rendez-vous, ils te préviennent à l'heure du rendez-vous qu'ils vont avoir 10 minutes de retard.
Ouais.
Ben enfin, tu le sais depuis que t'es partie de chez toi. Tu vois, ce genre de truc, ça me rend folle. Et après, dans les défauts que j'ai acceptés, c'est que j'ai aussi accepté le fait que j'avais l'air froide. Et donc, sur scène, j'ai l'air aussi froide. Oui, parce que je l'ai accepté.
Ouais, et justement... C'est marrant parce que comme t'es sur scène, t'es aussi un peu comme ça dans la vie. Quand t'arrives dans un groupe, quand on parle en soirée, tout de suite, tu peux te mettre dans une posture où tu regardes profondément les gens et puis tu vas poser des questions où tu sais que ça fait mouche.
Parce que tu m'as déjà vu en soirée, Félix ?
Bah oui.
Non, je sors jamais. Je suis très mal à l'aise en société. J'ai peur des gens. Je reste chez moi.
Alors, en début de soirée. Mais des fois, tu manges et tout. Bah, Montreux.
Ah, Montreux. Parce que j'étais obligée d'être là.
C'est vrai.
Mais quand je suis invitée à des soirées, je dis je viens et je n'y vais jamais parce que j'ai une angoisse interne où je me dis il y a des gens que je ne vais pas connaître et je suis trop mal à l'aise quand il y a des gens que je ne connais pas. Et donc, bah, je reste chez moi. D'accord, je suis très mal à l'aise en société.
Et la scène ?
C'est pas pareil, la scène.
Pas pareil. Différent.
Ouais.
Et après, tu parles aussi de... J'en ai parlé parce que tu parlais du fait que tu as été élevé, tout ça, t'en as pas mal parlé dans ce podcast-là. Parce que tu finis tout le truc sur la famille Dutel avec ta maman. J'imagine que du coup, c'est pas inventé, qui invente des mots et qui utilise des expressions de manière différente que les autres.
Sinon, moi, dans la vie, j'ai été élevée par une maman qui parle très mal le français. J'ai appris à l'âge de 15 ans qu'on dit un Bermuda et pas un Bernuda. Déjà. Là, pendant la période Covid, elle m'a dit « T'inquiète pas, Tania, je mets du gel hydraulique toute la journée. » Le zip, pendant des années, pour moi, c'était une bringuette. Tiramisu, tsunami, c'est pareil. Et le choc que j'ai eu le jour où j'ai appris en décembre 2004 que la Thaïlande avait été recouverte par du mascarpone. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui peuvent se reconnaître parce que j'ai des amis qui sont enfants d'immigrés et ils me disent que leurs parents parlent mal. Mais ma mère n'a même pas cette excuse. Moi, j'apprends des nouveaux mots tous les ans. C'est-à-dire que ma solution aujourd'hui, c'est de lire le dictionnaire. Oh putain, on dit pas tête d'oreiller.
J'ai grandi dans un tout petit village de 1300 habitants qui s'appelle Denissé, entre Lyon et Mâcon.
D'accord.
Dans une famille où, avec le schéma à l'ancienne, c'est-à-dire mon papa travaillait et ma maman nous élevait. On était quatre enfants. Et donc avec ma mère qui dit beaucoup de mots qui sont pas corrects et vraiment il y a des mots ben je les apprends encore aujourd'hui quoi. Et donc des fois je dis des trucs et les gens me regardent bizarrement, je dis oh non ma mère m'a encore dit un truc que je crois que c'est ça et c'est pas ça. Et c'est hyper gênant.
Ouais, c'est vraiment un truc qui t'arrive régulièrement. Donc la tête d'oreiller c'est vraiment un truc.
J'ai su ça très tard. Le dernier mot que j'ai appris, c'était il y a 2-3 ans, j'étais dans le train, je regarde une série sous-titrée et je vois le mot miro. Et je dis, qu'est-ce que ça veut dire ? Je googlise, je vois Jean qui voit mal, je dis, on dit pas miron hein. Parce que ma mère, je sais pas pourquoi personne ne dit ce mot-là, mais ma mère dit quand même tout le temps, je suis pas miron. Hein. Et là, j'envoie un message à mon grand frère, je dis, tu savais Rudy qu'on disait miro et pas miron ? Et là, il me dit, oui, j'ai appris ça il y a quelques années. J'ai dit, mais enfin, il faut partager ce genre d'informations. Et donc, voilà, elle sait que j'ai sorti ce passage où je parle d'elle sur Montreux. Elle fait comme si elle avait honte, mais je vois dans son regard qu'elle est contente que je parle d'elle. Et donc, la dernière fois que je suis chez mes parents, elle est trop fière de me raconter qu'elle promène le chien de ma sœur. Elle croise une voisine et elle lui dit, bah voilà, le chien, il est atteint de nazisme. Donc là, la voisine la regarde en se demandant ce qu'elle dit. Donc ma mère répète, elle dit, bah oui, il est atteint de nazisme. Et seulement la deuxième fois qu'elle prononce ce mot-là, elle se dit, je crois que ce n'est pas le bon mot. Et en fait, elle voulait dire nanisme.
En fait, ta mère, elle écrit des vannes pour toi.
Non, mais ouais. Ouais, c'est ça.
Un jour, j'étais à table avec ma famille, je devais avoir à peu près 12 ans. Et ma mère se lève de table et elle nous dit, bon, avec votre père, on a réfléchi. Je regarde mon père, il sait pas de quoi elle va parler. Mais il dit, oui, oui. Tu sais, parce que mon père, il est comme tous les pères, il veut pas s'embrouiller avec ma mère. Et il sait à l'intonation de la voix de ma mère s'il faut dire oui ou non. Tu veux du pain ? Il dit oui, normal. Tu veux du pain ? Il sait que s'il dit oui, je le prends dans la gueule. Donc, avec votre père, on a réfléchi et on a décidé que si une de vous, ma sœur et moi, pas mes deux frères, si une de vous se fait violer, à la sortie du tribunal, on allait tuer le violeur.
Il y a des gens ici qui ont déjà réfléchi au viol de leur enfant et qui ont ensuite élaboré un plan d'attaque. Et moi, je vous confirme, j'ai regardé mon père, il savait pas de quoi elle allait parler. Hein. Moi, je pense que quand elle lui a dit, il devait être en train de fermer la Laguna. Et donc, je me suis retrouvée avec deux responsabilités sur les épaules. J'ai dit, d'accord, donc peut-être qu'un jour, tu vas te faire violer. J'y avais pas pensé. Et si ça arrive, mes parents vont finir leur vie en prison. Je vous parle d'une maman qui n'a jamais parlé des règles à ses deux filles, jamais. Ça veut dire que ma mère, dans sa tête, elle s'est dit, non, mais les viols, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les règles.
Donc toi, t'es partie de ce petit village, t'as fait tes études à Lyon peut-être, je sais pas.
J'ai fait un an à Lyon et après je suis arrivée à Paris à 19 ans.
Tout de suite avec l'envie de faire du stand-up ?
Non, ouais. Je savais que je voulais jouer.
Théâtre ?
Ouais, mais j'aimais pas le théâtre classique, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Et donc j'ai commencé mes études en septembre et en octobre ou novembre, j'ai une copine de classe qui m'a emmenée voir le spectacle de Mustapha El Atrassi au Théâtre Le Temple à cette époque-là. Et quand je l'ai vu, je dis, c'est ça que je veux faire. Enfin, être toute seule sur scène, quoi.
Ah ouais.
Et faire des blagues sur scène.
Donc,
et j'ai commencé.
Chez toi, t'as commencé à écrire et t'as.
J'ai pas commencé à écrire parce que la fille qui j'étais m'a dit moi aussi. Je dis bah viens, on fait un duo. Le lendemain, j'arrive à l'école et je lui dis quand est-ce que tu veux qu'on soit pour écrire. Elle me dit oh ça va, Tania en a 2 ans. Donc là, j'ai compris qu'elle allait jamais écrire. Et donc après, je me suis lancée toute seule.
Comedy Club déjà dès le départ.
Non. J'ai fait des recherches sur internet pour savoir où jouer. Je suis tombée sur un casting pour une émission télé et je me suis dit que c'était une bonne idée. Et je ne dirais pas, mais c'était sur une chaîne locale. Je ne veux pas que ça puisse
d'accord,
être retrouvé. Si
très
un
bien.
Jour,
très
moi,
bien, très bien, très bien, très bien.
Je veux sortir cette vidéo, ça sera ma décision. Okay. En attendant, non.
Ça marche.
Et donc, j'ai fait ce casting et j'ai été prise. Et après, une des personnes qui travaillait sur cette émission donnait des cours d'écriture et je me suis inscrite. Et j'ai commencé comme ça.
Ok. Moi, il y a juste un truc pour finir le podcast. Qui m'intéresserait de savoir, parce que j'aime bien finir avec un humoriste qui est monté sur scène à Montreux, mais qui n'est pas toi. Et c'est pas forcément pour faire de la promo.
Ouais.
C'est plutôt soit un humoriste où tu te dis, tiens, on a les mêmes styles de comédie, ou alors un humoriste que t'aimes, juste simplement, mais qui peut être à l'opposé de toi.
Ouais.
Et juste, si tu devais finir ce podcast avec un humoriste qui n'est pas toi, ce serait qui et pourquoi ?
Eh ben, Charles Soignon.
Ok, très bien.
Je suis allée voir son nouveau spectacle fin mars à Paris. Et elle joue le 12 juin au Théâtre de l'Atelier. Et j'ai adoré son spectacle. Ce que j'aime chez Shirley, en fait, j'aime dans le stand-up quand il y a du fond et que tu apprends des trucs. J'aime ça. Parce que quand c'est drôle, c'est super. Mais je sors du spectacle et je ne me rappelle pas de quoi tu as parlé.
Ouais.
Et elle, je me rappelle des thèmes qu'elle a abordés. Et je pense que je peux me rappeler de tous les thèmes qu'elle a abordés. Et ce que j'aime chez Shirley, c'est qu'il y a du fond dans tout ce qu'elle dit. Je trouve que c'est hyper intelligent, que ça a été réfléchi. Et pour moi, à chaque fois qu'on me demande, je parle d'elle parce que pour moi, en France, c'est la meilleure.
Bah, c'est
voilà, c'est dit, c'est
bon
comme ça. Voilà.
Pour finir, disons. Bah, écoutez, je vous laisse avec Charles Soignon. Merci beaucoup, Tania.
Merci à toi, Félix.
On va parler de féminisme, les gens. Les féminismes, c'est vachement bien. Un truc positif qui se passe. Les mecs, vous êtes super en ce moment. Vous dites des trucs hyper positifs. J'entends des mecs se dire entre eux, les gars, si vous faites peur à une fille sur un trottoir le soir, changez de trottoir, ok ? C'est cool, c'est très cool. Mais j'ai mis du temps à comprendre que je faisais partie des gars qui devaient changer de trottoir aussi. Je l'ai compris un soir parce que je suis derrière une fille et elle accélère. Tu vois, je me dis, il y a un gars derrière nous. T'as compris, j'ai accéléré. Elle a vécu le pire harcèlement de sa vie, hein. Ah, je l'ai dépassé. Je te dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Et on est dans une équipe de foot avec le mauvais maillot. Ah, je suis avec toi. Arrête de courir, y a personne. Elle a dû voir un ouf, calme-toi, on est seuls, toi et moi. J'ai partie des gens inoffensifs qui font peur quand même, tu sais. C'est terrible. La fois, j'avais un date avec une fille de 1m80, je fais 1m59. Tu sais. Et à ce moment du date, à la fin où elle te regarde, genre, j'espère que tu vas m'embrasser. Enfin, elle fait, j'espère que tu vas m'embrasser. Mais j'espère que tu vas te baisser, connasse, surtout, parce qu'il va rien se passer sinon, en fait. Ne regarde pas avec tes yeux comme ça, qu'est-ce que je fasse ? Putain, je vais pas sauter. Mettre un coup de tête. Il y a plein de trucs qui me sont passés par l'esprit. Genre, je me suis dit, quoi, je mets une béquille ? Genre, bah, voilà ! La romance ! Je vais mettre une balayette pour t'emballer, putain. Donc, je suis partie. Je fais pas partie des filles qui se font agresser dans la rue. T'sais, j'ai mes potes, plein de potes à moi. Elles ont des, hey, pute ! Hey, hey, toute la journée. J'ai pas cette chance. Hein. Jamais. Une fois, ça m'est arrivé. Une fois, et j'étais pas prête, parce que c'était la première fois. Le mec m'a fait, hey ! J'étais là, oui ! J'étais flatté, c'était pas la bonne réaction, on est bien d'accord ? J'étais là, ok, c'est pour moi cette fois ! casting sauvage. Alright baby, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit cette phrase incroyable, il m'a dit « Tu veux pas me sucer s'il te plaît ?» J'étais perturbé, le mec dit « S'il te plaît ?» La première fois que je me fais agresser, le gars est poli. Je suis obligé de répondre poliment, du coup j'étais là ah, « okay. En même temps j'ai une bouche, il a un pénis, ça marche. Hein, putain. En plus j'ai du temps, j'aime bien rendre service. Qu'est-ce que ferait une fille, Shirley? Qu'est-ce que ferait une fille ?» Et du coup j'ai commencé à parler avec lui, parce qu'il était plutôt sympa en plus. Et je lui ai dit, mais comment ça fait que tu demandes ça comme ça dans la rue? Il m'a dit, des fois ça marche. Mais présente-moi ces meufs!
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently, so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.